Je disais tout à l'heure, avant qu'on entre sur Internet et que la caméra se mette en marche, nous avons été au mariage d'Esther et Esteban hier toute la journée. C'était un très beau mariage. Oh là là, c'était super chic. Et notre frère Alain a bien prêché, c'était magnifique. Et j'ai pu inaugurer mon nouveau talit, c'était bien. Les chants étaient formidables, l'orchestre du sanctuaire était là. Et alors, oula, les gens, ils étaient bien réveillés, ça tapait des mains, hein, c'était vraiment sympathique. Il n'y a pas besoin de leur demander de le faire, tout de suite, ils sont rentrés dans le. Et puis tout le monde a bien apprécié. Ensuite, bon, c'était dans un cadre absolument formidable. Vraiment, Catherine et Alain et les parents de Esteban ont préparé quelque chose de magnifique. C'était fait avec beaucoup d'amour et on était, voilà, c'était bien. Je ne vais pas vous raconter tout le mariage, vous verrez les photos, on les mettra. On en mettra quelques-unes sur Révélation Bible aussi, si Esther et Esteban sont d'accord, parce qu'on ne va quand même pas non plus faire des choses s'ils ne sont pas d'accord, mais je pense qu'ils vont être d'accord. Ils étaient très très bien. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ce sujet? Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Hein. On va aller directement dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Je vous rappelle que nous sommes en ce moment dans le rétablissement de toutes choses, dans l'Église de Jésus-Christ, et ce que je veux, c'est que les choses soient bien claires selon la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, ça va encore être un enseignement, mais un enseignement qui va nous aider à considérer les choses d'une façon claire, nette, limpide, sur la parole de Dieu et non pas sur les « je me sens poussé à » ou je ne sais quoi. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte, c'est donc Paul qui écrit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Thierry et Natalia ont offert des fleurs là-bas. Bon, c'était. Maxime, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. C'était magnifique, magnifique. Voilà, mes frères et sœurs. Dieu, il faut savoir, je pourrais vous prêcher sur Bartimée, sur la mer calmée, sur. Mais Dieu est en train de faire deux choses en ce moment très importantes. Il juge son Église, premièrement. 1 Pierre 4, 17. Le jugement commence par la maison de Dieu. Il est en train de juger son Église. Et il rétablit son Église pendant ce jugement. Les versets qu'on vient de lire là tout à l'heure nous apprennent deux choses, entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses, mais entre autres, il y a cela. Les dons se reçoivent par l'imposition des mains de gens qui ont le pouvoir. On ne reçoit pas un don comme ça, par hasard. Par exemple, je connais des gens qui me disent « j'ai des révélations de Dieu ». Et alors, ils disent des choses, et puis en effet, il y a des choses qui se réalisent. Mais quand vous regardez, c'est bizarre. C'est pas dans le cadre de l'Église, c'est des gens qui ne fréquentent pas l'Église de Jésus-Christ, ils sont en dehors, juste là, dans leur famille, et puis ils prophétisent des trucs, ils ont des révélations. Je vous ai parlé l'autre jour des deux choses, hein, de Moïse et de Balaam, je vous avais écouté, c'est la prédication de vendredi. Beaucoup de gens maintenant sont saisis par des esprits de Python. Ce sont des esprits qui annoncent des choses. Oh là là, ça a l'air terrible, on pourrait penser que c'est l'esprit de Dieu, mais pas du tout. Et pourquoi on sait que ce n'est pas l'esprit de Dieu? Mais déjà, premièrement, c'est toujours dans la condamnation. Et puis aussi, sous couvert de « je vais t'aider à retrouver le Seigneur parce que tu es impur », ou alors c'est... ce qui nous aide à discerner, c'est que ce n'est pas fait dans le corps de Christ. Si ça n'est pas fait dans le corps de Christ, ça ne vient pas de Dieu. Ça, on peut être certain. Et je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu, parce qu'il faut protéger l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas se laisser influencer par des choses qui peuvent paraître. Waouh, on se dit là, là, mais non, pas du tout. Alors, les dons, la deuxième chose qu'on voit, c'est que les dons ont besoin d'être ravivés. ont besoin d'être ravivés. Paul écrivait une autre fois à Timothée, il lui disait, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. 1 Timothée 4, 14. Celui qui confère un don, c'est le Saint-Esprit. C'est pas le collège des anciens, c'est pas un apôtre, mais ça passe par un apôtre ou par un collège d'anciens. Ça doit se faire comme ça parce que ça doit se faire dans l'ordre. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne. Il donne et nous avons le droit d'aspirer à tel ou tel don. Maintenant, ce n'est pas forcément celui, le don auquel on aspire qu'on va recevoir. Mais si vous aspirez au don, alors c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est toujours pour l'édification de l'Église, pas pour l'édification de Madame Tartampion ou machin dans l'immeuble ou de je ne sais quoi. Non, c'est dans l'Église. Et lorsque Paul et les anciens ont imposé les mains à Timothée et ont prié, Dieu a donné à l'un d'entre eux une parole prophétique. Et cette parole prophétique, elle prédisait le genre de personne que Timothée allait devenir dans la suite. Cette prophétie, elle a gouverné l'octroi du don. Et il faut que les choses se fassent bien dans l'ordre. Mais ce n'est pas donc n'importe qui peut imposer les mains ou prophétiser de la sorte. Maintenant, c'est le grand désordre dans l'Église, en général. Ce doit être une personne qui a une relation profonde avec le Seigneur et qui a conscience du corps de Christ et qui vit et qui expérimente le corps de Christ. De toute façon, si c'est un imposteur qui le fait, ça va se voir assez rapidement parce que l'ennemi ne peut pas faire autre chose que ne peut pas faire autrement que de se dévoiler. C'est pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits, ils ne peuvent pas être épouvantés ou séduits. C'est très sérieux parce qu'ici, l'autorité du chef de l'Église, de Jésus, c'est Jésus le chef de l'Église, l'autorité est transmise par un membre représentatif. Et ainsi, un don approprié peut être accordé à la personne qui reçoit l'imposition des mains. Que dire de plus? Eh bien que suite à cette imposition des mains, ceux qui reçoivent cette sorte d'imposition des mains sont devenus membres du corps de Christ qui ne cherchent plus la spiritualité pour leur propre profit, pour leur propre famille, pour leur propre petit entourage. Non, mais ils cherchent la spiritualité pour le bien du corps de Christ qui est l'Église. C'est clair. C'est clair. Autrement, ce sont des esprits qui imitent. Ça peut même être inspiré par Dieu. Regardez Balaam, Dieu lui parlait aussi. Désormais, que le Seigneur utilise ou que le Seigneur utilise la personne qui a reçu ou qu'il utilise quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance pour la personne qui a reçu le don. Aucune importance. Il ne sera pas jaloux, il ne sera pas malheureux, triste, avec l'impression d'être laissé sur le banc de touche. Non, pas du tout. Parce qu'il fait partie du corps de Christ. Mes frères et sœurs, le jugement vient sur l'Église de Jésus-Christ qui a reçu des dons. Notre frère Branham, le prophète, avait raison. Ce que les pentecôtistes croient avoir reçu, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la restauration des dons. Et c'est une Église aujourd'hui qui existe avec la restauration des dons, mais il n'y a pas cette plénitude et ce baptême, cette immersion dans le Saint-Esprit. Il n'y a qu'à regarder. Ils sont rebelles à la parole, etc., etc. Bon. Mes frères et sœurs, le jugement vient donc sur une Église qui a reçu des dons et qui œuvre sur une base individuelle. Trop de ceux qui ont reçu des dons cherchent leur propre bénéfice spirituel. L'exemple le plus frappant, c'est tous ces prédicateurs de l'abondance, qui ont des véritables dons, des charismes, hein, c'est extraordinaire, mais c'est pour se faire du pognon. Ça, c'est flagrant. C'est tellement flagrant que c'est incompréhensible que les chrétiens les suivent. C'est incompréhensible. Pour moi, c'est quelque chose d'inouï. Ça ne veut pas dire que la doctrine de l'abondance est fausse. Regardez, par exemple, la doctrine de l'abondance dans Comment recevoir l'abondance ou la vie comblée de notre frère T.L. Osborne, c'est parfaitement biblique, c'est juste. Mais ça, ce qu'ils font eux, là, les autres, beaucoup d'autres, c'est une imitation de la vérité, ça n'est pas dans l'esprit de Dieu. C'est du vol organisé. Trop de ceux qui ont reçu des dons recherchent leurs propres bénéfices spirituels et il faut mettre en garde le corps de Christ. C'est pourquoi vous venez ici, ce matin, vous entendez ça, vous vous êtes mis en garde vous-même et vous allez mettre en garde les autres que vous rencontrez. Hier, on a rencontré des gens qui se disent chrétiens, qui sont certainement des chrétiens, et l'amour croit tout, donc je crois tout. Mais maintenant, ces gens-là vont venir nous voir et il faudra qu'ils soient enseignés directement, correctement, et non pas avec tous ces espèces de trucs qui voyagent maintenant, en plus avec Internet, c'est terrible. Alors que Dieu nous délivre de toutes ces choses, de toutes ces manifestations, qu'il nous protège aussi de toutes ces choses, autant qu'il nous a protégés, délivrés et qu'il nous protège du péché. Dieu est un Dieu d'ordre et l'individualisme conduit toujours au désordre, toujours. Et le désordre dans le corps de Christ, ça finit par devenir un désordre dans le corps des membres du corps de Christ. Il y a plusieurs raisons qui font que on peut être malade. Je me rappelle d'un célèbre pasteur pentecôtiste qui sévissait à Châteaudun, qui disait du haut de l'estrade, parce qu'il parlait d'un frère qui n'était pas venu au culte, et quelqu'un a dit, il est malade, frère, aujourd'hui, il a de la fièvre. Et il a dit, ben, si moi un jour vous voyez que je suis malade, c'est parce que vous pourrez savoir que j'ai péché. Ah, j'étais soufflé. Voilà, pour eux, être malade, ça veut dire, c'est parce que tu as péché, Dieu te punit. Voilà, c'est comme ça, c'est pas plus compliqué. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut tomber malade. Il y a des raisons génétiques, il y a des raisons, ou alors la violation des lois physiologiques toutes bêtes, mais aussi une violation de la loi du corps de Christ. Mais dans tous les cas, il est bon de faire appel aux anciens de l'Église. Dans tous les cas, si une personne, un disciple de Jésus-Christ, est malade, parce qu'il a violé les lois du corps de Christ, qu'il a pris la Sainte Cène sans discerner le corps de Jésus-Christ, alors l'onction d'huile le replacera dans le corps de Christ. Parce qu'il en est sorti. Comment il en est sorti? Ben, c'est simple. N'ayant pas discerné le corps de Christ, l'esprit s'est retiré de lui, s'est retrouvé en dehors. Et il peut même ne pas s'en rendre compte. C'est pourquoi il a besoin d'être exhorté même. Alors, à ce moment-là, il a besoin de l'onction d'huile. Les anciens ont le pouvoir de oindre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne le font pas pour les inconvertis. Moi, je vois dans les églises maintenant, les pasteurs font l'onction d'huile à n'importe qui. On balance ça, l'onction d'huile. C'est devenu un truc magique, on dirait. Voilà, l'onction d'huile. Mais ce n'est pas pour les inconvertis. L'onction d'huile, c'est pour les chrétiens qui ont eu des problèmes avec le corps de Christ. C'est pour les membres de l'Église qui sont malades, mais d'une certaine maladie. Voilà ce que Dieu prescrit, l'onction d'huile. Pourquoi? Tout simplement parce que celui ou celle qui est malade, parce qu'elle a pris indignement la Sainte Cène, cette personne, elle a perdu l'esprit. Elle a besoin d'être à nouveau ointe pour réintégrer le corps de Christ. C'est un pouvoir qui est réservé au collège des anciens, c'est-à-dire aux cinq ministères, aux évêques, c'est-à-dire aux surveillants, aux gens qui ont été mis à part par le Saint-Esprit pour ces choses-là dans l'Église. Ceux qui s'amusent à faire l'onction d'huile en dehors de ces règles, ils seront jugés là-dessus. Et si celui qui est oint ainsi, la Bible nous dit, avait commis des péchés, alors ça lui sera pardonné. Jacques 5, 15. Quel péché? Le péché d'avoir jugé et condamné un ou plusieurs membres du corps de Christ. Juger un membre du corps de Christ, c'est pas mal, mais juger et condamner, ça c'est mal. Juger un frère, bon, dire, vous voyez, une énormité, on sort du culte et puis voilà, tout d'un coup, vous voyez Dominique qui allume un cigare, là juste devant la chapelle. Ben moi, je suis désolé, je le juge, hein. Hey Dominique, c'est pas bien ce que tu fais là. D'accord, Dominique? Mon Dieu, c'est tellement invraisemblable, pauvre Dominique. Voyez, Mais je ne le condamne pas, je vais pour l'aider, pour le remettre. Voilà. Mais maintenant, le péché d'avoir jugé et condamné un ou plusieurs membres du corps de Christ, alors là, c'est grave. Parce que si le péché qu'il avait commis, comme par exemple le truc du cigare, ça c'est un péché personnel, c'est pas le péché de ne pas discerner le corps de Christ. Commettre un péché comme par exemple dire un mensonge, ou commettre une impureté, ou voler quelque chose, ou que sais-je, tout ça c'est des péchés, il suffit de confesser ces péchés, on est pardonné, c'est réglé là, il n'y a pas besoin de l'onction d'huile et toutes ces choses. Vous comprenez, vous suivez? Parce que c'est le sang qui enlève le péché, c'est pas l'huile. Dans tous les cas, sauf pour le cas du péché, du fait de ne pas discerner le corps de Christ. Parce que quand on ne discerne pas le corps de Christ, qu'on juge et qu'on condamne, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé, il se retire, on se retrouve comme nu, ayant perdu l'esprit, et alors on a besoin de l'onction d'huile. Dans le cas de Jacques 5, les malades qui font appel aux anciens doivent confesser leurs péchés, ils doivent recevoir l'onction qu'ils n'ont plus, et Dieu les relèvera. La confusion dans les églises dites charismatiques, c'est que, à cause d'un mauvais enseignement, ils se basent sur ce texte pour dire que ceux qui sont malades sont des gens qui ont péché. Mais il faut vraiment tordre le texte pour en arriver là. Moi, j'étais jusqu'à entendre au sujet de personnes qui avaient eu un accident, ah ben c'est Dieu qui l'a puni parce que c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est pas simple, c'est pas simple comme ça. Il faut comprendre les choses. Et c'est pourquoi j'enseigne ça le matin au culte, parce que vous êtes là, tous réunis, afin que ces choses-là puissent être connues de vous. Ce sont des choses qui étaient enseignées dans les écoles bibliques des Assemblées de Dieu et chez les Gitans dans les années 70. Je crois qu'il n'y a plus que les Gitans qui enseignent ça maintenant. Les autres, ils n'enseignent même plus ça. Pour faire comprendre que les anciens ne sont pas des gens ordinaires, toutes ces choses ont été écrites. Ils ont des pouvoirs, par exemple celui de conférer des dons, celui de oindre pour rétablir un membre dans le corps de Christ, et d'autres pouvoirs encore. Maintenant, on peut aller plus loin, au verset 16, il nous est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Pourquoi confesser les péchés les uns aux autres? Parce que, simplement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le corps de Christ. C'est toujours dans le cadre des péchés au sujet du corps de Christ. Ce n'est pas au sujet de j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis une impureté. Là, vous confessez à Dieu, c'est terminé. Mais là, voyez comment le Saint-Esprit remet les choses en place. Là, c'est au sujet de l'Église. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans l'Église, donc il faut confesser les péchés les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Par conséquent, qu'il est nécessaire de confesser les péchés les uns aux autres. Le malade qui appelle les anciens doit confesser ses péchés aux anciens et les anciens doivent confesser leurs péchés aux malades. Ah bon? Eh oui. Ça nous montre que quand un membre a tort, le corps entier est responsable. Si un membre a un jugement sur un frère ou plusieurs frères et sœurs de la communauté, de l'Église, très souvent il a raison. Et en quelque sorte, ce sont les gens qui l'ont poussé à pécher, en quelque sorte. Donc, ils sont aussi responsables que celui qui juge. Et tous ont besoin de confesser leur péché, le leur à eux. On a tous notre part de péché dans cette affaire. Ça nous montre que quand un membre a tort, le corps entier est responsable, le corps de Christ. Si un membre est malade à cause du manque de discernement du corps, pas à cause d'autre chose, pas à cause d'une maladie héréditaire ou que sais-je, mais à cause de ce péché-là, eh bien, tous les anciens de toute l'Église ont leur part de responsabilité. Je le répète, si un membre est malade à cause de sa génétique, ça n'a rien à voir, les anciens ne sont pas responsables. Par exemple, parmi nous, il y a un frère qui a dû se faire opérer il y a une dizaine de jours. Sa maladie ne venait pas du fait qu'il avait pris la Sainte Cène indignement, il souffrait d'une maladie génétique. Son père avait la même, etc., etc. Personnellement, j'ai été opéré du cœur il y a 5-6 ans maintenant, Et c'était une déformation d'ordre, c'est héréditaire. Mon père avait la même chose, il en est d'ailleurs mort. Mais ce n'est pas parce que j'avais pris la Sainte-Seine indignement que j'ai dû me faire, que je suis tombé malade et qu'il a fallu que je me fasse opérer. Vous comprenez bien les choses. D'autres, pour toutes sortes de raisons physiologiques, ils peuvent tomber malades, des choses qui n'ont rien à voir avec le fait de prendre la Sainte-Seine indignement. Mais dans le cas du péché commis à la table du Seigneur, tous sont responsables, autant les anciens que l'Église, que les membres, que tout. Dans ce cas, les anciens doivent confesser leur péché. Ça peut être un péché simplement, ils n'ont peut-être pas manifesté assez d'amour, pas assez d'égard, d'attention, de gentillesse, ils n'ont peut-être pas assez observé, fait attention au sujet de la personne, ils ont laissé les brebis livrées à elles-mêmes, les anciens doivent confesser ça. Pardon parce que je n'ai pas fait attention à toi. Pardon parce que je t'ai laissé faire des choses que j'aurais pas dû. J'aurais dû te gronder dès le départ. Pardon, je te demande pardon et je demande pardon à Dieu. Je confesse ce péché devant le Seigneur. Le malade doit aussi confesser son péché. Son péché, ça peut être un péché d'orgueil charnel, ça peut être un péché d'orgueil spirituel, ça peut être un péché d'indépendance, un péché d'isolement, de mépris par rapport au corps de Christ. Peut-être toutes ces sortes de choses, encore bien d'autres. C'est le cœur de l'homme est terriblement tortueux, celui de la femme aussi, je vous rassure. Chacun doit donc confesser son péché aux autres, mais aussi prier les uns pour les autres. Ce n'est pas que les anciens qui viennent avec l'onction d'huile, avec une supériorité spirituelle pour mettre l'huile sur le pauvre petit frère ou la pauvre petite sœur qui vient confesser son péché puis qui voudrait être guéri. C'est tous doivent prier, on doit prier les uns pour les autres. Les anciens pour le malade pour les anciens. Qu'est-ce que ça illustre? Cela illustre le besoin d'amour et d'humilité dans l'Église. C'est pas parce que quelqu'un a été doté don extraordinaire qu'il est supérieur. Pas du tout. Pas du tout. Chaque fois qu'une personne s'éloigne physiquement ou spirituellement du corps de Christ, il est personnellement malade physiquement ou est spirituellement, et il a besoin d'onction. Il a besoin d'onction. Là, et seulement là, il y a onction dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez ce que je pense, et ce que je dis, et ce que je crie depuis des années au sujet de l'onction dont on parle dans les Églises, c'est à mourir de rire si on ne veut pas pleurer. C'est incroyable, c'est n'importe quoi, c'est de la superstition. La seule onction dont il est question dans la parole de Dieu au sujet de l'Église de Jésus-Christ, c'est ça. Et ça seulement. Tout le reste, c'est du pipeau évangélique à la noix de coco qui vaut pas deux balles le cajot. Voilà, c'est dit. Comme Priscille disait hier soir, ça c'est fait. Je vais vous donner une preuve scripturaire pour vous montrer que ces choses sont vraies. Quand Paul a été arrêté sur le chemin de Damas. Quand Paul a été arrêté sur le chemin de Las Vegas. Jésus l'arrête, lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui dit pas: Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu persécutes ceux qui m'aiment? Non, il dit: pourquoi me persécutes-tu? Paul dit: mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes, tu me persécutes. Là, le Seigneur explique à Paul que tous ceux qui croient en lui sont un avec lui. Ça, c'est le premier aspect de la révélation que Paul a reçue. Il n'est même pas encore converti, qu'il a déjà la révélation. Dieu lui dit: mon corps et moi, c'est un. C'est fort. L'unité, l'indivisibilité entre le chef et le corps. En vérité, Paul est le premier dans toute la Bible à discerner le témoignage du corps de Christ. Le premier. Personne ne peut toucher un membre sans en même temps toucher au chef. Alors, n'allez pas vous imaginer que vous pouvez faire du mal à un membre du corps de Christ sans pécher contre Jésus. Et si vous n'êtes pas châtié parce que vous avez péché contre un membre du corps de Christ, c'est-à-dire contre Jésus, si vous n'êtes pas châtié, c'est que vous êtes un bâtard. Vous êtes un enfant illégitime, vous n'êtes pas de la famille de Dieu. Ça va loin, hein? Donc, si vous êtes châtié, c'est une bonne chose, c'est un bon signe, c'est que Dieu vous aime et il veut vous corriger, il veut vous reprendre. Alors, si tu blesses un membre, tu blesses le chef, et il le sent. Il le sent. Et puis Dieu enfonce le clou là avec Paul. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alors moi je vais le traduire à la Genton. Jésus lui dit, lève-toi et je ne vais pas te dire ce que tu as à faire. La 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 l'air. C'est un grouillot de service qui va te le dire pour ton humilité. Eh oui. Jésus lui révèle le corps de Christ. C'est pas moi qui vais te le dire, c'est quelqu'un d'autre et tu vas devoir lui faire confiance. Premier jour du salut de Paul, le Seigneur lui révèle la loi et le principe du corps. Et même si Paul allait être l'instrument puissant que nous connaissons au service du Seigneur, Jésus a utilisé un membre de son corps pour l'aider. Il ne l'a pas aidé en direct. Par conséquent, n'allons jamais penser que nous n'avons pas besoin de dépendre des autres. C'est pourquoi je dis en dehors du corps de Christ, ça n'est pas de Christ. Si ça n'est pas de Christ, de qui est-ce ? N'allons jamais penser que nous allons tout recevoir directement de Dieu seul. Pourquoi faire partie de l'Église ? Pourquoi s'embêter avec des frères et sœurs qui ne sont pas toujours au top ? Pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, ça se fait comme ça. Bon, ce texte ne nous enseigne pas de suivre n'importe qui. Ce texte nous exhorte à ne pas entretenir une attitude orgueilleuse. Moi, Dieu me parle et ça me suffit. Ça, c'est pas bien. Dieu ne veut pas que nous ayons une attitude orgueilleuse qui nous mène à croire que tout seul, nous pouvons recevoir la parole du Seigneur et résoudre tous les problèmes de notre famille ou de nous-mêmes, ou des autres qui viennent nous consulter. Là, c'est Madame Irma, là. Paul se relève. Il est aveugle, on le prend par la main, c'est même pas qui, on le conduit en ville, et là, il reste trois jours, sans voir, sans manger, sans boire, 3 jours, et il est là, pendant 3 jours. Et s'il s'était impatienté, hein, vous qui voulez que ça arrive tout vite, qui voulait que, ben normalement ça devrait arriver comme ça, puis vous mettez, chez nous on dit en Suisse, les noix on les met sur des bâtons, ça tient pas les noix sur des bâtons. Non, il a été patient, il s'est pas impatienté, il a pas dit c'est long, je suis venu ici, ça je suis sûr, c'est Dieu qui m'a conduit, mais là, je vais quand même pas rester comme un idiot dans les ténèbres, ça dure depuis trop longtemps, j'en ai marre. Il n'y a personne qui me dise ce que je dois faire. Puis d'abord, je ne fais rien. Ça sert à quoi que je sois là? Le Seigneur m'a parlé quand même. Oh! Non. Il ne s'est pas impatienté. Il a attendu dans l'humilité. Et au bout de 3 jours, il y a Ananias qui arrive. Ananias. Mais c'est qui ce mec? Ananias. Non, ce n'est pas celui qui était mort. Hein. Il y avait plusieurs Ananias. Hein. C'est comme les Dupont. Hein. Il y en a aussi plusieurs. Heureusement, il n'y a qu'un Michel Genton. Mais il y a plusieurs Ananias. C'est qui ce mec? On n'a jamais entendu parler dans la Bible, et puis après, on n'en entend plus parler non plus. Hein. C'est un illustre inconnu, on ne sait pas qui c'est, ce n'est pas un homme célèbre. Mais le Seigneur lui avait donné l'autorité pour cela. Et Jésus s'est servi de cet illustre inconnu pour aider le plus grand des apôtres. Paul a appris, non pas de Pierre ou de Jean ou des autres apôtres, non, il a appris de la part d'un célèbre inconnu. C'est même pas dit qu'ils sont devenus copains par la suite, hein. On n'entend plus parler. Ananias arrive et lui impose les mains. Alors on va dire ce qui s'est vraiment passé, acte 9, 10. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Salut mon frère. » L'imposition des mains à Paul et ce « Salut mon frère » visait une chose. À manifester le corps de Christ à Paul. Et que Paul soit rempli du Saint-Esprit, c'était, l'autre lui a imposé les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'était lui insuffler la vie. Mes frères, mes sœurs, si vous n'acceptez pas l'aide des autres, vous passez à côté de bien des choses que le Seigneur a pour vous. Ne restez pas tout seul, disant, moi je regarde le culte à la télévision, je regarde tel et tel prédicateur à la télé et ça me suffit. Non, il faut aller avoir de la communion fraternelle. Il faut bénéficier du ministère. Vous savez, dans la Bible, la seule division qui est permise dans l'Église, c'est la division géographique. L'Église de Rome, l'Église de Corinthe, l'Église de Laodicée, l'Église de Smyrne, l'Église d'Éphèse. Il n'y a pas l'Église des Pentecôtistes, l'Église des Baptistes, l'Église... Non, c'est local. C'est l'Église, la seule Église de Jésus-Christ. Trop de chrétiens décident de tout d'après leurs idées, d'après leur appréciation personnelle, d'après ce qu'ils croient avoir compris de ce qui a été dit. Et alors, ils font comme ils veulent, sans en parler au corps. Ça aussi, c'est ne pas discerner le corps de Christ. Ne pas discerner le corps de Christ, c'est juger qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour nous. Frères et sœurs, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous discernions le corps et que nous expérimentions le corps de Christ. Pas simplement je me rappelle, je t'aime dans l'amour du Seigneur, vous connaissez tous l'histoire. Je redis pour ceux qui ne connaissent pas, on était avec la communauté dans une convention chrétienne, c'était à Toulouse, et puis on était donc à l'hôtel parce que ça durait plusieurs jours. Et le premier jour, on prend l'ascenseur avec mon épouse, et puis on avait nos Bibles, et puis il y avait un autre couple qui était là, et avec aussi des Bibles. Alors je dis « Bonjour frère !» Et le frère, il me regarde la tête aux pieds. Je vois pas une tronche qui lui est revenue, il m'a rien dit du tout, il n'a pas desserré la bouche, rien. Bon. Et puis on se sépare dans le hall de l'hôtel, et puis on va donc dans la salle de la conférence. Et puis là, il y a les chants, et puis il y a le frère qui met l'ambiance dans la salle en faisant des chants, qui dit « Retournez-vous à gauche, à droite et derrière vous, et dites à celui qui est là, à côté ou derrière ou devant vous, je t'aime de l'amour du Seigneur. » Alors, je vois un grand gaillard qui se retourne, c'était mon gaillard de l'ascenseur, et qui m'embrasse en me dit « Alors, je vais vous le faire avec son accent, « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Je dis « Ah oui, tu m'aimes de l'amour du Seigneur, mais tu ne m'aimes pas dans l'ascenseur. » Je crois que j'ai gâché sa convention, le pauvre, mais c'était rigolo. Vous voyez ce que je veux dire? On doit expérimenter le corps de Christ, pas simplement à la réunion, mais aussi dans les ascenseurs. Voilà, ça suffit juste à la réunion et dans les ascenseurs, ça suffit. Ça suffit? Non, c'est tout le temps. Rappelez-vous de votre passé, faites l'inventaire du nombre d'actions que vous avez réalisées à l'intérieur du corps de Christ. Chacun de nous, apôtre, prophète, pasteur, docteur, tout ce que vous voulez, évangéliste, diacre, ancien, évêque, tout ce que vous voulez, tous les membres du corps de Christ doivent réaliser qu'ils sont membres avant tout. Et chacun doit réaliser qu'il est limité par le corps. Chacun doit réaliser qu'il doit aider et qu'il doit être aidé dans le corps. Quel est donc le genre d'homme et de femme qui discerne le corps de Christ? Eh bien, c'est quelqu'un qui cherche la communion, qui craint de se tromper lui-même. Moi, je ne me trompe pas, le don est parfait, Dieu m'a parlé. Oui, ben ça, c'est pas tout à fait juste. C'est même pas juste du tout. Une personne qui discerne le corps de Christ, c'est quelqu'un qui n'oserait même pas œuvrer de façon indépendante. Quelqu'un qui n'est pas dans le corps de Christ, il est aveugle comme Paul l'était, sans l'esprit comme Paul l'était, avec peut-être une révélation de Dieu. Il avait une révélation de Dieu, Jésus lui avait parlé, Jésus en personne. Mais il n'avait toujours pas l'esprit de Dieu, il était aveugle, et il était assis pendant 3 jours. Eh bien, si tu n'es pas dans le corps de Christ, c'est que tu as peut-être une révélation, mais tu es assis dans les ténèbres, et tu dois attendre que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Et tu dois attendre, pas seulement attendre, mais la Bible dit dans Jacques, appelle les anciens. Celui qui est malade appelle les anciens. Si tu n'as pas discerné le corps de Christ, c'est ce que tu dois faire. Toi qui regardes cette émission à la télé, c'est ce que tu dois faire. Ne reste pas tout seul chez toi comme ça, devant ta télé à regarder Michel Janton qui prêche. C'est pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de m'écouter, mais c'est pas bon de rester comme ça. Tu peux m'écouter, mais il faut surtout aller vivre la communion fraternelle dans une église. Ils ne sont pas parfaits. Ben oui, je sais. Puis quand tu seras dans cette église, elle sera encore moins parfaite qu'avant. Je rigole parce que je les connais, mes frères africains, mes sœurs africaines là-bas. Ils savent que c'est vrai. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà la personne qui a discerné le corps de Christ. Et je dis toutes ces choses parce qu'elles sont nécessaires au rétablissement du corps de Christ en général et aussi pour le corps de Christ local ici à Lemblor. Mes frères et sœurs, on vit le rétablissement de toutes choses, on est secoué comme un prunier. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, quand j'étais à la campagne, quand j'étais gamin, on avait des pruniers et on secoue les pruniers pour que les prunes tombent. Hein, vous savez ça? Eh bien, là, en ce moment, l'Église de Jésus-Christ, elle est secouée comme ça. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est bien que ça nous arrive. Et il faut qu'on soit des bons fruits pour le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que ce soit des mauvais fruits qui soient là, qui tombent pourris. Non, mes frères et sœurs, soyons reconnaissants de ce que Dieu s'occupe de nous en nous reprenant, en nous corrigeant. Et je prêche ces choses au culte ce matin. Je sais que normalement ça va être prêché dans le cadre d'une réunion d'enseignement, mais nous sommes des adultes. Et comme il y a un besoin, eh ben c'est aujourd'hui que le Seigneur le dit. Amen. C'est aujourd'hui parce que vous êtes là. Et si on fait une réunion d'enseignement, vous ne serez peut-être pas là le mercredi soir ou le jeudi soir ou que sais-je, mais le dimanche matin, je sais que les chrétiens, ils aiment bien venir. À la réunion de prière, c'est dans toutes les églises pareil. À la réunion de prière, vous avez 15 personnes dans une église de 150. C'est comme ça, c'est réglo. Sauf chez nous. Chez nous, et tout le monde est là. Voilà, donc il faut comprendre que c'est des choses sérieuses qui sont en train d'être dites pour que nous puissions être bien préparés pour manifester les dons comme nous devons les manifester et non pas n'importe comment, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Donc réjouissons-nous que quelques-uns vont recevoir des dons ou vont être renouvelés dans leurs dons, que la flamme va être ravivée. Réjouissons-nous de cela, mais non plus, nous n'imaginons pas qu'on va tous se mettre à prophétiser, mais ou à avoir des songes ou ceci ou cela. Mais nous avons tous quelque chose à apporter dans le corps de Christ. Et il faut que ça soit fait dans l'ordre. Amen. Mais c'est réjouissant de savoir que Dieu s'occupe de nous et veut que ça soit quelque chose qui soit tout à sa gloire. Alors écoutons-le et puis mettons en pratique ces choses et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur d'aider chacun et chacune afin que ton Église puisse te glorifier, que ce ne soit pas n'importe quoi. Merci Seigneur parce que nous savons que dans l'Église primitive, il y avait un corps d'anciens. Et c'est vrai, un corps d'anciens pour 3 000 ou 4 000 membres, c'était quand même beaucoup d'anciens. Nous sommes très peu nombreux, nous n'avons pas besoin de 30 anciens chez nous, mais nous avons besoin de quelques personnes sages, mises à part par le Saint-Esprit. Nous avons besoin aussi d'avoir des dons qui se manifestent, mais pas comme à Corinthe. Nous voulons que ça soit dans l'ordre. Et merci Seigneur de ce que Paul enseigne ces choses aussi. Nous y viendrons. Je te prie de préparer les cœurs de chacun afin que nous puissions manifester ces choses avec ton esprit et non pas avec un esprit étranger. Merci Seigneur Jésus d'éloigner de nous le feu étranger. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen.